OK, on va commencer notre 65e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va regarder très brièvement les défis qu'a rencontré le christianisme au 20e siècle. Alors, bien entendu, le 20e siècle a apporté de grandes transformations à tous les niveaux, socialement, politiquement, économiquement, culturellement. Et bien entendu, toutes ces choses ont influencé le christianisme. Ça l'a aussi posé des nouveaux défis, véhiculé des nouvelles menaces et présenté de nouvelles opportunités à l'Église de Jésus-Christ. On va examiner maintenant toutes ces choses d'un peu plus près. Quelles sont, on va les regarder un par un, rapidement. Alors le premier, c'est le défi de l'immigration. Au 20e siècle, on le sait, il y a eu beaucoup de monde qui sont partis d'Europe, qui sont déménagés aux États-Unis, par exemple, parce que là, on regarde l'histoire plutôt de la perspective nord-américaine. Alors, entre 1865 et 1884, plus de 7 millions de personnes émigrèrent d'Europe vers les États-Unis. Beaucoup d'entre eux étaient des chrétiens ou professaient l'être. Aussi, apportèrent-ils avec eux des conceptions et des compréhensions théologiques différentes. Alors, cela a eu pour effet de réduire les efforts d'évangélisation aux États-Unis à cause du niveau de, on pourrait dire, de tolérance, entre guillemets, exigé envers les nouveaux arrivants. Alors, vu qu'arrivait du monde qui avait toutes sortes de milieux, alors les efforts d'évangélisation, ça a eu un effet. T'sais. Le deuxième défi, celui de l'évangélisation dans les villes. Alors, les efforts d'évangélisation durent s'adapter à de nouvelles réalités. Les appartements, parfois sécurisés, il suffit d'aller dans une ville, même ici à Rouyn-Noranda, c'est pas gros, puis des fois, on essaie de rentrer dans des blocs, c'est fermé, c'est barré. Mais plus la ville est grosse, je me souviens qu'à Québec, on était obligé de faire des pirouettes pour rentrer. On faisait toutes sortes de petits trucs pour finir par rentrer, parce que quand tu prends un appartement de, je sais pas, 200-300 appartements, tu rentres pas là comme dans... Alors, il y a toujours, on s'en est des fois à 7, 8, 10, 15 places, puis il y en avait un qui finissait par nous ouvrir. Mais tu sais, faut apprendre à travailler avec ça, parce que... Alors, le défi d'évangélisation des grandes villes. Alors, les grandes villes, bien sûr, il y a les appartements, la sécurité, il y a les langues aussi. Prends une ville comme Montréal, si tu te promènes dans tous les quartiers, il y a des quartiers où ça parle des langues particulières, l'italien, etc. Et il y a eu des cultures différentes aussi. Tu n'approches pas les gens de la même façon, dépendamment de leur background culturel. Alors, bien entendu, cela aussi a eu une influence sur le christianisme au 20e siècle aux États-Unis. Et ça a amené des créations de ce qu'on a appelé les Home Baptist Missions. Si on regarde ça du point de vue baptiste, home, ça veut dire qu'on veut évangéliser d'abord aux États-Unis. Alors, c'est vraiment du travail d'implantation. Ça l'a amené l'idée de vouloir implanter des églises un petit peu partout aux États-Unis. Bien entendu, cette chose-là ne s'est pas produite uniquement aux États-Unis, c'est-à-dire uniquement chez les baptistes, mais aussi d'autres dénominations ont développé les mêmes idées. Alors, bien entendu, troisième problème ou défi, c'est celui de la prospérité matérielle. Alors, la prospérité matérielle... Selon les Écritures, ils nous apprennent que souvent, ça amène les hommes à l'autosuffisance et à l'éloignement de Dieu. Par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, « Mais tous ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. » Alors, on le sait, le 20e siècle aux États-Unis, ça a amené beaucoup de développement économique. Alors, plus que la richesse grandissait, plus ça devenait difficile d'atteindre les gens. Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. « À vous, riches maintenant, pleurez et jetez des cris. À cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés des vers. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans les délices sur la terre et vous vous êtes rassasiés comme en un jour de sacrifice. Et quand on regarde la parabole de Lazare, celui qui avait le riche, il ne lui reproche pas des péchés en particulier. Le péché qu'on lui reproche, c'est vraiment l'indifférence qu'on peut développer quand on atteint un certain niveau de sécurité matérielle. Autrement dit, on voit la misère autour de nous, c'est pas qu'on la voit pas, c'est que notre cœur est fermé. Alors, c'est un grave péché. Alors, souvent, dans les sociétés où la prospérité matérielle est très développée, la fermeture à l'Évangile est d'autant plus fermée. Alors, les riches, bien entendu, durant cette période-là, ont fondé des séminaires, des universités, des collèges, et la mentalité « business-like » fit son apparition dans les ministères. Autrement dit, c'est bien beau avoir de l'argent, puis partir toutes sortes de choses, mais il faut toujours que tu te rendes compte qu'un ministère, c'est un service au Seigneur, et non pas une business. Alors, c'est ça qu'ils disent, que quand on observe tout ce qui s'est passé durant le 20e siècle, il y a eu la mentalité « business-like » qui s'est installée souvent dans les ministères chrétiens, ce qui était une grave erreur aussi. Alors, les institutions religieuses étaient souvent perçues comme des moyens de se soustraire à l'impôt. Et aussi, ça a amené plusieurs églises à donner des postes à des personnes non qualifiées bibliquement. Quatrième défi, le défi des grands problèmes sociaux. L'implication des chrétiens dans le soulagement des problèmes sociaux conduisit au développement de ce qu'on pourrait appeler l'Église institutionnelle. Les églises s'impliquèrent davantage dans la construction d'hôpitaux et d'œuvres sociales. On commença à utiliser les locaux des églises comme des endroits pour faire de la gymnastique, des conférences de toutes sortes, des classes de couture, des activités récréationnelles et des classes du soir de toutes sortes. En 1908, la Federation Council of Churches of Christ in America, autrement dit le Conseil fédératif des Églises du Christ d'Amérique, adopta le document qui s'appelait « Social Creed of the Churches », qu'on pourrait traduire par « la confession sociale des Églises ». Le danger de cette approche était de s'éloigner de la mission première des Églises, qui est de conduire des âmes à Christ. Ainsi se développa cette philosophie de l'Évangile social, soit la volonté de changer le monde et de solutionner tous ses problèmes. Cela contribua aussi à rapprocher les Églises de ce qu'on pourrait appeler la théologie libérale. Cinquième défi, le défi de l'éducation séculière. En 1925, une loi fut votée en Floride, suivie par d'autres États, requérant que la lecture de la Bible quotidiennement se fasse dans les écoles publiques et aussi la prohibition d'enseigner la doctrine d'évolution. Alors, on sait, bien entendu, que ça n'a pas resté là. Alors, l'association qu'on appelle American Civil Liberties Union, qui est vraiment plutôt antichrétien, sont intervenus et ont contesté toutes ces lois en cours. Alors, bien entendu, la façon de procéder, ça a été de présenter le croyant comme un arriéré et la théologie de l'évolution comme scientifique. Alors, le défi du modernisme, sixième défi, ça, là, c'est vraiment, je dirais, un des grands nœuds du problème du 20e siècle. Et si aujourd'hui, on est encore là, j'en ai mis juste deux là, comme des leaders, là, mais dans le fond, c'est tous les hommes qui travaillaient autour de ces deux idées-là. C'est vraiment deux grands leaders américains. Alors, dans le conflit, on l'a vu, on a eu une leçon sur le fondamentalisme. Alors, le conflit entre les libéraux et les fondamentalistes, ça s'est joué dans les années 20 et 30. Alors, du côté des libéraux, il y avait le Harry Emerson Fosdick. Alors, Harry Emerson Fosdick, il a vécu entre 1878 et 1969. C'était un pasteur baptiste américain qui est devenu une figure centrale dans la controverse entre les modernistes et les fondamentalistes. Lui, il était un leader pour les libéraux. Alors, dans les années 20 et 30, il exerça une influence néfaste sur la théologie conservatrice. Nous pouvons résumer sa pensée par une déclaration qu'il a faite. Il a dit « The Christian Church is pre-scientific ». Autrement dit, l'Église chrétienne est pré-scientifique, plaçant ainsi l'autorité de la science au-dessus des Saintes Écritures. Alors, bien sûr, il faudrait aller très loin là, pour regarder toute l'histoire de ça, les leaders qui l'ont suivi, tout comment ça s'est développé et la réaction que ça l'a amené aussi. Alors, la réaction n'a pas tardé et du côté des fondamentalistes, il y a eu Gresham Machen. Alors, un des opposants les plus vigoureux et articulés du côté des fondamentalistes fut Gresham Machen. Lui a vécu de 1881 à 1937. Lui était un théologien presbytérien. Il a été professeur du Nouveau Testament au séminaire théologique de Princeton entre 1915 et 1929. Voyez-vous, c'était à l'époque où Princeton commençait vraiment à se libéraliser de façon sérieuse. Et lui, il était un conservateur dans ce milieu-là. Alors, bien entendu, ça l'a obligé à prendre des décisions et à poser des gestes concrets. Mais ça a eu beaucoup d'influence sur sa vie aussi. Alors, entre 1915 et 1929, qui était professeur à Princeton. Maintenant, Princeton s'est rendu libéral, plus libéral que ça, tu meurs, comme on dit. Alors, il a dirigé une école, une révolte conservatrice contre la théologie libérale de Princeton. Et il a formé le séminaire théologique de Westminster. Ça, ça existe encore. Westminster Theological Seminary. Alors, qui était comme une alternative beaucoup plus orthodoxe. Alors, comme l'Église presbytérienne du Nord continuait à rejeter les tentatives conservatrices pour renforcer la fidélité à la confession de foi Westminster, Machen dirigea un petit groupe de conservateurs en dehors de l'Église, pour former l'Église presbytérienne orthodoxe. Alors, on voit que ces bonhommes-là ont une influence telle que c'était dans les années 20 et 30, et on est rendu presque 100 ans après, et on sent encore toute l'influence de ces gars-là, aux États-Unis particulièrement. Les presbytériens orthodoxes, ce sont ceux qui ont voulu demeurer très fidèles à l'adhésion à la 1646, et il y a une grande partie des presbytériens qui se sont en allés du côté des libéraux tranquillement, pas vite. Mais ça, c'est vraiment la réaction du milieu conservateur. Alors, Gresham Machen est une grande figure américaine qui a contribué à maintenir le christianisme vivant au 20e siècle. C'est pas de lui, là, qu'on serait rendu, j'en ai aucune idée. Mais Dieu a permis que des bonhommes de même influencent l'Église. Alors, quand l'Église presbytérienne du Nord des États-Unis, qu'on appelait la PCUSA, rejeta ses arguments durant le milieu des années 20 et décida de réorganiser le séminaire théologique de Princeton pour créer une école modérée, Machen fonda et prit la direction du séminaire théologique de Westminster à Philadelphie en 1929. Mon directeur d'école biblique, qui était à Cornwall, avait été formé à cette école-là, à Philadelphie, où il enseigna le Nouveau Testament jusqu'à sa mort. Son opposition continuelle durant les années 30 au libéralisme dans les missions étrangères presbytériennes l'amena à créer une nouvelle organisation, le Bureau indépendant pour les missions étrangères presbytériennes. En anglais, c'est dit « The Independent Board for Presbyterian Foreign Missions » en 1933. le jugement, la condamnation et la suspension du ministère des membres de l'IBPFM, dont Macon, en 1935 et en 1936, fournit les raisons de la formation, en 1936, de l'OPC. Alors, Macon est considéré comme le dernier des grands théologiens de Princeton qui avait, depuis la création de l'université au début du 19e siècle, développé la théologie de Princeton, une forme conservatrice et calviniste du christianisme évangélique. Bien que Macon eût été comparé aux grands théologiens de Princeton, comme Archibald Alexander, Charles Hodge, A.A. Hodge et B.B. Warfield, ça dans le milieu presbytérien, c'est comme les grands théologiens de leur milieu. Il ne fut jamais un chargé de cours en théologie. Cependant, il était un érudit du Nouveau Testament et il n'est jamais été même le responsable du séminaire. L'influence de Macon peut être encore ressentie aujourd'hui à travers l'existence d'institutions actuelles qu'il fonda, le séminaire théologique de Westminster et l'Église presbytérienne orthodoxe. De plus, son manuel sur le grec du Nouveau Testament est encore utilisé aujourd'hui dans de nombreux séminaires, dont les écoles de la PCUSA. Rien que pour dire, quand j'ai étudié le grec à l'école biblique, le manuel qu'on se servait, c'est le manuel « Greek for Beginners » de Macon. Après ça, au Québec, il y a eu Bernard Guy et M. Mercoux qui ont sorti un livre sur enseigner le grec en français, et c'était basé sur le livre de Macon. L'influence d'un homme, là, sur moi, c'est une affaire qui me frappe de plus en plus. Quand quelqu'un s'implique fortement pour le Seigneur, son influence dure parfois des siècles et des siècles. Vois-tu, lui, il a fait ça dans les années 20, puis on est proche des années 100 ans après, puis on utilise encore son manuel, qui était un excellent manuel pour apprendre le grec. Alors, c'est un gars qui connaissait son grec, là, parce qu'il avait écrit un manuel comment l'enseigner, alors. Macon, c'est tout un bonhomme. Un combatif, un soldat. Alors, les écrits des défenseurs du protestantisme orthodoxe. Bon, bien sûr, il y a eu ces bonhommes-là, mais il y a eu tout un mouvement d'écrits qui se sont rassemblés autour de ça. Un qu'on a déjà parlé dans notre fondamentalisme, c'est important, c'est celui qu'on appelait « The Fundamentals ». « A testimony to the truth » eut une importance capitale pour la défense des doctrines chrétiennes fondamentales. Autrement dit, c'est, « The fundamentals », c'est les fondamentaux, un témoignage pour la vérité. Alors ça, ça s'est fait, c'est un réassemblage de 90 essais publiés entre 1910 et 1915. Il y a quelqu'un qui a rassemblé des écrits de chrétiens conservateurs orthodoxes et qui a décidé de les rassembler et d'en faire des volumes. Et il y a eu, on va voir, il y a des Américains riches, chrétiens, qui ont fourni l'argent pour faire imprimer ça et distribuer ça à grandeur des États-Unis et dans le monde entier. Alors ça, ça a eu une influence considérable. Alors, ce qu'on appelait « The Fundamentals » furent publiés d'abord dans un ensemble de 12 volumes, et plus tard dans un ensemble de 4 volumes. Aujourd'hui, si vous les procurer sur Internet, c'est 4 volumes, c'est 4 grosses briques, comme 4, comme des, ouais, ben, c'est des gros livres, là. Alors, c'est des assez gros volumes. Alors, l'ouvrage rassemblait les écrits de 64 auteurs différents, représentant la majeure partie des dénominations chrétiennes. L'ouvrage défendait particulièrement la tradition réformée. Le projet a été conçu initialement par un homme d'affaires chrétien qui s'appelait Lyman Stewart et son frère Milton. Ils pourvurent aux fonds nécessaires pour faire imprimer 3 millions de volumes, 250 000 ensembles. Imagine, 250 000 ensembles. C'est quelque chose quand il y pense. Ils furent envoyés gratuitement aux pasteurs, missionnaires, professeur de théologie, au secrétaire des organisations YMCA et YWCA, au surintendant des écoles du dimanche et à d'autres ouvriers chrétiens de tous les pays anglophones. Alors, les volumes défendaient les croyantes protestantes et attaquaient la haute critique. La haute critique, c'est tout simplement les libéraux qui remettent tout en question. La théologie libérale, le catholicisme, le socialisme, l'athéisme moderne, la science chrétienne, le mormonisme, le Millennium Dawn, qui était un œuvre qui avait été publiée par les Témoins de Jéhovah. Un des présidents, des premiers présidents, il avait publié un gros manuel de théologie qui faisait distribuer un peu partout aussi. Alors là-dedans, il dénonçait ça. Et il dénonçait également le spiritualisme et il dénonçait la théorie de l'évolution. Alors les cinq grandes doctrines suivantes étaient puissamment défendues. La Bible est libre d'erreur. Deuxièmement, la divinité de Christ et sa naissance virginale. La troisième grande vérité, la mort substitutive et expiatoire du Christ pour satisfaire la colère de Dieu contre le péché. La quatrième, la résurrection corporelle du Christ, le troisième jour. Et la cinquième, la deuxième venue de Christ pour les croyants. Bien entendu, ça c'était les cinq grandes vérités, c'est ça qu'on les appelle « the fundamentals », mais ça, c'était plus large, on vient de voir l'ensemble des choses que ça développait. Le septième grand défi, le défi de l'unité internationale et de l'écuménisme. Alors, la volonté d'unité à n'importe quel prix, même celui de la vérité, commençait à s'exprimer partout. Cela se faisait à deux niveaux. Niveau de la politique, donc les Nations Unies, le communisme, etc. Et le niveau religieux, le World Council of Churches, ou le Conseil mondial des Églises. Alors, c'était vraiment, on dirait, la préparation du grand gouvernement mondial du côté politique et la préparation de la grande religion mondiale du côté religieux. Tout ça est en train de se mettre en place pour se développer au cours du 20e siècle. Alors, bien entendu, de nouveaux défis attendaient les chrétiens du 20e siècle. Donc, il y a eu le mouvement pentecôtiste charismatique. Un des problèmes apportés par ce mouvement est l'action trop grande mise sur les émotions et sur l'expérience. De plus, ces choses prennent souvent priorité sur les Saintes Écritures. Beaucoup d'emphase était placée sur les miracles, les guérisons, le parler en langue, le « health and wealth » qu'on a appelé l'évangile de la santé et de la prospérité, le « word faith » avec son « name it and claim it », traduction, parole de... On pourrait dire « word faith », on pourrait traduire « parole de foi ». Et eux, la philosophie qui est en arrière de ça, c'est « name it », nomme-le et réclame-le. Autrement dit, c'est un peu l'homme qui se met en train de commander à Dieu plutôt que de l'inverse. Alors ça l'a emmené toutes sortes de dérives, toutes sortes de folies. Et bien entendu, il y a eu la dispensationalisme. Le dispensationalisme, bien qu'on ait cherché à vouloir dire que ça date du début des apôtres, beaucoup de travail ont été faits par les réformés pour démontrer que c'est vraiment quelque chose de la fin du 19e et qui s'est développé très fortement au cours du 20e siècle. Et l'outil, un des outils qui a été bien gros utilisé, ça a été vraiment la distribution des Bibles, des Bibles Scofield, encore là, qui ont été financer des millions d'exemplaires distribués à travers la Terre, et aussi quelques séminaires, grands séminaires américains, dont Dallas Theological Seminary, qui est devenu un centre de formation et de diffusion de tout ça aux États-Unis et dans le monde, avec un succès tel qu'aujourd'hui, on voit que la grosse majorité des églises américaines sont dispensationalistes de persuasion. Alors, le dispensationalisme, on croit que, selon certains auteurs, aurait amené dans le christianisme orthodoxe cinq grands problèmes. Premièrement, l'affaiblissement du sens des responsabilités par la croyance de l'imminence de l'enlèvement. Tout le monde croit que l'enlèvement est sur le bord d'arriver, donc on ne s'implique pas dans rien, ni socialement, ni politiquement, ni rien. On attend que l'enlèvement arrive. Deuxièmement, l'opposition des concepts théologiques de la loi et de la grâce. qui a favorisé le développement de l'antinominianisme. Donc, ce qu'on a eu, aux États-Unis, le fameux débat qu'il y a eu entre les dispensationalistes et le Lordship Salvation, ça a été vraiment un immense débat qui continue encore de faire des vagues même aujourd'hui. Alors, le Lordship Salvation, c'est tout simplement la doctrine de la seigneurie du Seigneur dans la vie du chrétien après son salut. Vraiment dit, les Lordship Salvation vont plus défendre l'idée que quand tu es chrétien, tu ne peux pas juste dire « Je suis chrétien, j'ai reçu la grâce et je vis n'importe comment. » Je suis chrétien, j'ai reçu la grâce, mais il faut que j'obéisse. Il faut que ma foi soit démontrée par mes actions. Alors, le Lordship, ça a été, aux États-Unis, un immense débat. Beaucoup d'angles, beaucoup de livres ont été écrits là-dessus. Troisième problème que le dispensationnisme a amené, bien entendu, la croissance de la théologie arminienne. C'est très rare que tu vas voir des dispensationalistes qui sont calvinistes. Quoique, je ne suis pas si rare que ça, parce que j'en ai connu. J'en ai été parmi eux pendant quelques années. Ça existe, là, mais en général, je ne pourrais pas dire un pourcentage, mais c'est sûr qu'ils sont minoritaires. Alors, il y a des dispensationalistes qui sont doctrine de la grâce, mais il n'y en a pas beaucoup. La majorité sont vraiment arminiens. Et il y a eu le fameux développement de ce qu'on a appelé du décisionnisme, donc « decision for Christ ». Donc, c'est vraiment la mentalité que c'est l'homme qui choisit s'il va être sauvé ou non. Alors ça a été un mouvement qui a beaucoup contribué à faire avancer ces idées-là par toutes les campagnes d'évangélisation qui se faisaient selon ce modèle-là. Et ça, c'est... faudrait encore là passer quelques leçons, regarder c'est quoi les implications théologiques de tout ça, là, mais il y en a beaucoup. Et il y a eu aussi l'abandon du cadre théologique de la théologie de l'Alliance. Alors, la théologie de l'Alliance, on peut dire qu'elle recule à peu près au 16e siècle, 15e, 16e, aux alentours-là. Elle s'est développée surtout par les presbytériens. Mais une chose que les baptistes ont perdu en cours de route, c'est qu'ils ont été toujours alliancistes aussi. Moi, je me souviens quand j'ai lu John Gill, je venais de sortir de l'école biblique, j'étais encore dispensationaliste, et je lis John Gill et je me rends compte que John Gill était un allianciste. C'était un baptiste. Mais quelque part, dans ma tête, je t'ai mélangé un petit peu. Ça a été, quand je suis arrivé dans le milieu réformé baptiste, que je me suis rendu compte, par Don Pascal et dont d'autres, il y a comme un recouvrement de nos racines qui est en train de se faire actuellement aux États-Unis particulièrement. Et bien entendu, tout ça va finir par avoir une influence mondiale. Mais il faut se rappeler que les baptistes qui ont abandonné l'alliancisme comme système, c'est récent. 20e siècle, on pourrait dire. Parce qu'avant ça, quand tu regardes l'histoire, tous les baptistes étaient alliancistes, mais dans une perspective particulière qu'on est en train de remettre sur la table aujourd'hui, de remettre des livres pour réexpliquer toutes ces choses-là. Actuellement, il y en a plusieurs bons livres qui ont été mis sur le marché, mais c'est récent, c'est pas des choses. Alors, c'est des choses qui commencent à se réétablir. Alors, l'abandon du cadre théologique de l'Alliance, de la théologie de l'Alliance, par les réformés et par les baptistes réformés, ça s'est perdu au cours des siècles et c'est en train de se rétablir. Alors, bien entendu, il y a eu le mouvement pentecôtiste charismatique, il y a eu le dispensationalisme, il y a eu aussi ce qu'on pourrait appeler le légalisme et le débalancement doctrinal. Alors, il y a eu toujours, ça a toujours été de tout siècle, mais au 20e, ça l'a débattu aussi, le danger de vouloir vivre suivant des règles. Alors, en anglais, on appelle ça « rule keeping ». Et aussi le développement de l'hypercalvinisme. Alors ça, c'est pas nouveau non plus, mais aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout dans les milieux anglophones, l'hypercalvinisme garde toujours un pied dans l'étrier, comme on pourrait dire. Autre problème, l'orientalisme et le nouvel âge. Je sais pas si vous vous souvenez des années, fin des années 70, début des années 80. Je me souviens, je disais la presse à l'époque, on ouvrait la presse le samedi, des annonces pleines pages sur la méditation transcendantale. C'était vraiment la décennie de la mode de l'Orient. On aurait dit que tout ce qui venait d'Occident, c'était plus bon, puis tout ce qui venait d'Orient, c'était bon. Alors, il y a eu cette mode-là. Alors, bien entendu, tout ça, ça a eu l'influence sur le christianisme. Alors, plusieurs mouvements à cette époque-là sont devenus populaires. Les fameux Hare Krishna, je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux autres, qui dansaient les rues avec des robes jaune-orange, le crâne rasé qui mangeait juste de la farine. Et, en tout cas, c'était tout un, des phénomènes. Il y avait le phénomène du bouddhisme et il y avait le phénomène de la méditation transcendantale. Mais il ne faut pas croire que tous ces grands mouvements-là, sociaux, culturels, que ça ne finissait pas par s'introduire certaines idées dans le christianisme. Alors, le christianisme a eu à combattre ça. Bien entendu, le Nouvel Âge, ça, c'est un, on connaît tous ça, et ça a été introduit dans à peu près toutes les disciplines de la société. La science, l'éducation, le gouvernement, la psychologie et, bien sûr, la religion. La philosophie développée et défendue est que l'homme est intrinsèquement bon. Ils défendent la santé holistique, donc la santé globale et totale, entière de l'être humain. La psychologie transpersonnelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait des cours qui se donnaient, là. Ça durait, il fallait que le monde paye tant, puis ils se ressemblaient, puis ils criaient. La psychologie transpersonnelle, c'était comme, t'as ce point de te donner la capacité de sortir de tes gonds, d'exprimer ta personnalité. C'était très populaire. Les cours de Silva, quelque chose, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Là. Très populaire dans les années 80. Après ça, il y avait l'énergie déifiée en physique. Dans le domaine de la physique, on a comme presque voulu faire de l'énergie Dieu lui-même. Alors, bien des idées viennent de là. Nous sommes de l'énergie, donc... Le lien se fait assez vite. Là. Alors, la spiritualité narcissique, donc toute centrée sur soi-même, la notion de péché qui est rejetée dans le Nouvel Âge, la notion de péché, c'est comme, on rejette ça. La divinité de la mère terre Gaïa. Vous avez sûrement entendu parler de la fameuse Gaïa, le monde qui embrasse les arbres. Il y a quelque chose de vrai dans cette approche-là, dans le fond, du respect de... mais ça peut devenir une religion aussi. Et c'est ce qui était arrivé aussi à cette époque-là. Ça existe encore, puis je dirais que c'est encore plus développé que jamais aujourd'hui avec le culte des anges. Aller dans un magasin, regarder la quantité de livres qui existent sur les anges, c'est fou, là. Alors après ça, il y a une autre difficulté que les chrétiens du 20e siècle ont rencontrée. C'est ce qu'on peut appeler le pragmatisme et le Church Growth Movement. Ça, j'ai connu ça. À un moment donné, c'est comme vraiment l'approche de regarder si on veut évangéliser ou si on veut bâtir une église avec des critères de marketing. Autrement dit, c'est l'homme qui construit soit une nouvelle église, une implantation d'église, ou... c'est l'homme qui construit... alors, il y a un paquet de mouvements, de livres, d'organisations qui se sont mis à faire venir les gens pour leur dire « On va vous montrer comment faire croître ça, une église. Mm-hmm. » Là, vous n'êtes pas beaucoup, là, mais si vous suivez ce qu'on dit, là, bien, dans le temps de le dire, vous allez tripler, décupler. Alors ça, c'est... faut pas t'oublier que ça a amené aussi l'introduction de toutes sortes de faux concepts théologiques. Alors, l'introduction de méthodes de marketing dans l'évangélisation, l'introduction de la musique populaire dans les cultes, le développement de programmes au lieu de se fier sur Dieu, la multiplication de ce qu'on pourrait appeler des gimmicks et des gadgets, l'application dans l'émission de la mentalité « fun, food and fellowship ». Autrement dit, c'est que tu développes toujours tes affaires autour, il faut que les gens aient du plaisir, de la bouffe et... des rencontres sociales. Alors, on pourrait traduire par plaisir, nourriture et fraternité. Ce sont des exemples de cette attitude centrée sur l'homme. Et ça, ça existe encore, là, plus que jamais, je dirais. Maintenant, la psychologie. Autre difficulté, l'idée que c'est la société qui a le problème est de plus en plus répandue. C'est pas l'individu qui est responsable, c'est la société. Et que le péché est simplement un manque d'estime de soi. Alors, la psychologie pousse souvent l'idée suivante, que ce sont les croyances qui doivent changer et non pas les comportements. Toutes les valeurs sont relatives et il n'y a pas d'absolu. Alors ça fait l'affaire de beaucoup de monde. Alors, la Bible et le Christ nous apprennent que le reniement soi-même est la clé pour suivre Christ. Et autre problème, la bataille pour la Bible. Alors, le 20e siècle a été particulièrement un champ de bataille sur cette idée-là. L'autorité, l'inhérence et l'inspiration des Écritures. Alors, il y a eu constamment des attaques contre l'autorité, l'inhérence et l'inspiration. Les Écritures qui ont fait rage durant tout le 20e siècle et qui continuent de faire rage, d'ailleurs. Alors, la seule réponse possible est un attachement solide à la Bible et une défense encore plus vigoureuse de celle-ci. Et la dernière difficulté, c'est celle de la souveraineté de Dieu. Beaucoup de livres et d'idées circulent pour dénigrer l'idée que Dieu est souverain et au contrôle de tout. Alors ça, c'est une affaire qui date de peut-être 10 ans, 10, 15 ans, le fameux « openness theology ». Le « openness theology », ça remet en question l'immuabilité de Dieu, son omniscience des événements futurs. Alors, quand on a parlé récemment de la question de l'impassibilité, ça, c'est des suites de ça, là. Alors, le « openness theology », c'est comme si Dieu n'était pas au courant de qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Il regarde les êtres humains et puis, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Alors que ça dénie des affirmations catégoriques des Écritures qui dit que Dieu a décrété toute chose et que c'est lui-même qui en est l'auteur, alors que Paul, il ne peut pas être surpris de ce qui va se passer. Alors que Paul, mais ça rencontre, on dirait que toutes les théologies qui sont développées par les hommes, des pasteurs ou des théologiens ou des ennemis de l'Évangile, trouvent toujours un écho dans le cœur des hommes. C'est fait de même. Il y en a qui comprennent le principe, qui ont le tour de développer toutes sortes d'outils, puis développer des conférences. Et alors, quand tu regardes, bien souvent, ils deviennent des vendeurs du temple. Tout est à vendre. Alors, défendons bec et ongles les enseignements des Saintes Écritures sur la personne de Dieu, ainsi que les formulations sages de notre confession de foi baptiste de Londres de 1689. Pourquoi on s'y attache? Parce qu'elle est bien formulée. Et peu importe ce qu'on regarde, décret, d'accord, si quelqu'un maîtrise sa confession de foi, théologiquement, il est solide pas mal. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de cette étude d'aujourd'hui? Alors, les nombreuses attaques du malin sur toutes les facettes du christianisme au 20e siècle ont affaibli les églises et ont contribué à illustrer l'absolue vérité des Saintes Écritures concernant la venue de l'apostasie, comme on peut le lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Jude 1, verset 3 et 4. « Bien-aimés, pleins de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui nous a été donnée une fois au sein. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul dénominateur, le seul dominateur, et Jésus-Christ notre Seigneur. Deuxième application, persévérons en la foi et dans la diffusion de la connaissance de Christ. Acte 2, 42. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Marc 16, verset 15. Et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. » Troisième application, veillons et prions. Matthieu 26, 41. « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Alors que Dieu nous accorde tout cela par sa grâce et pour sa gloire. Amen.